est tout juste 12h30, le journal de la mi-journée sur Europe 1. C'est jusqu'à 13h avec vous, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sont des images qui, un an après, jour pour jour, hantent encore tout un pays. 14 août 2018, l'effondrement du gigantesque pont Morandi à Gênes et le terrible bilan de 43 victimes. Journée d'hommage en cette veille du 15 août, déjà sacrée pour tous les Italiens. Retour sur la tragédie de Gênes avec Gian Bergawi dans un instant. Les autorités grecques parlent maintenant d'une catastrophe écologique majeure. Des avions bombardiers d'eau venant d'Espagne, d'Italie et de Croatie apportent leur aide sur l'île de Bé où le feu attisé par le vent n'est toujours pas maîtrisé. 30 heures après, plusieurs villages ont dû être évacués en pleine saison touristique. Nous allons faire le point avec Jean-Jacques Héry dans ce journal. L'actualité de ce mercredi 14 août, c'est aussi une accalmie toute relative à Hong Kong. Un sixième trimestre consécutif de baisse pour le chômage en France. Et puis l'Opéra de Los Angeles qui ouvre une enquête après les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de Placido Domingo. Comme tous les midis, notre balade au cœur de la France estivale. Voyage en Ardèche et voyage dans le temps quand l'utopie des 70s devient une réalité. Et puis notre conseil de lecture du jour, un livre peut-être à glisser sur le bureau ovale de Donald Trump pour une autre vision de la frontière américano-mexicaine. Sans oublier bien sûr la météo du jour. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour François, bonjour à tous.
Valérie, on peut dire gris dans le nord-ouest et puis estival ailleurs.
Exactement, des pluies faibles circulent actuellement sur la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France. Quelques gouttes traversent les pays de la Loire et le centre et elles atteindront la Bourgogne et la Lorraine dans la soirée et le soleil qui s'impose partout ailleurs. Autour de la Méditerranée, les températures restent estivales avec 29 à 34 et ailleurs, les maximales plafonnent entre 19 et 26.
Votre météo complète Valérie à 12h58, à 13h, le meilleur de la France qui bouge avec Raphaël Duchemin.
Europe 1.
Avant de développer tous ces titres de l'actualité, comment ne pas revenir sur cette histoire révélée aujourd'hui par nos confrères du quotidien Vosges Matin. Voilà qu'une bande de lycéens de Vittel décide de s'ériger en justicier du net. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour François.
Notre correspondant, bien sûr, dans l'Est de la France, c'est un véritable défi que se sont effectivement lancés ces adolescents traqués de potentiels prédateurs sexuels. Et grâce à un véritable guet-apens, ils ont réussi, Arthur, à en piéger un, et ce n'est pas un profil anodin.
Et oui, puisque c'est un instituteur qui s'est fait attraper. Au départ, François, il y a un défi Facebook que relève une bande de copains près de Vittel dans les Vosges. Ils s'inscrivent sur un forum internet, apparemment réputé pour attirer des amateurs de pédopornographie. Les lycéens créent un faux compte, une soi-disant jeune fille de 16 ans. Très vite, ça mord, si on peut dire. La fausse ado discute en ligne avec un individu, puis lui propose un rendez-vous au parc thermal à Vittel. Voilà le guet-apens. Trois jeunes hommes attendent l'internaute, pas de violence, juste des remontrances, ils l'intimident, puis ils préviennent les gendarmes à qui ils expliquent tout leur stratagème. Convocation de l'internaute hameçonné, perquisition chez lui, analyse de son ordinateur par des gendarmes spécialisés en cybercriminalité qui tombent sur des images pédopornographiques. Mon client est malade, m'a dit tout à l'heure son avocate, maître Rizaché. Il souffre d'une addiction à la pornographie. Il fréquente des sites où, dit-elle, il y a de tout et il a pu tomber sur des scènes avec des mineurs. Il était ce matin même, dit l'avocate, au centre médico-psychologique. L'instituteur François, désormais sous contrôle judiciaire, sera jugé le 27 août. Il souhaite continuer à travailler. Pas de commentaire du côté du rectorat pour l'instant.
Merci pour toutes ces précisions, Arthur Mbaché. Et si cette stratégie du guet-apens a bel et bien fonctionné cette fois-ci à Vittel, les autorités, vous les évoquiez à l'instant, Arthur, policiers et gendarmes qui travaillent au quotidien sur ces questions de chasse aux pédophiles, sur les réseaux sociaux notamment, rappellent que de telles stratégies ne sont pas sans danger, qu'il vaut mieux évidemment s'adresser en cas de repérage aux véritables spécialistes.
Europe 1. Il est 12h34, la suite du journal sur Europe 1, François Claus.
Sur l'île de Bé en Grèce, la deuxième plus grande île du pays après la Crète, on attend dans la journée des renforts européens, notamment des avions bombardiers d'eau qui devraient venir d'Espagne et d'Italie. Oui, car le feu qui ravage l'île depuis près de 30 heures, attisé par des vents violents, est particulièrement tenace. Bonjour Jean-Jacques Héry.
Bonjour François.
Les autorités grecques parlent déjà d'un véritable désastre écologique, Jean-Jacques.
Oui, et dès les premières lueurs de l'aube, le ballet des Canadairs a repris au-dessus de la forêt de pins en flammes. Un combat toujours aussi difficile pour les pompiers grecs qui ont lutté toute la nuit. D'après les autorités locales, la situation s'est un peu améliorée ce matin, mais 200 pompiers sont toujours sur place. Les images sont impressionnantes, un ciel rougeoyant, une fumée âcre qui s'étend jusqu'à Athènes, à une centaine de kilomètres plus au sud. Et surtout, il y a face aux soldats du feu ce mur de flammes de 30 mètres de haut et de 12 kilomètres de long, favorisé par une végétation très sèche. Les moyens dont disposent les secours grecs, 75 véhicules terrestres, 9 hélicoptères et 7 bombardiers d'eau, sont jugés insuffisant. Et les autorités, vous l'avez dit, ont fait appel à l'aide européenne. Un bombardier d'eau italien devrait arriver sur place dans la journée, suivi dans la soirée de 2 avions d'Espagne et d'un 2e appareil italien. Au moment où l'on parle, 4 villages et au moins 500 habitants et touristes ont été évacués. Aucune victime n'est à déplorer. Le gouvernement grec semble très mobilisé. Le nouveau Premier ministre a écourté ses vacances pour se rendre sur place. Même chose pour le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que la catastrophe rappelle de bien tristes souvenirs à la population grecque. Il y a un peu plus d'un an avait lieu l'incendie de Mati, une station balnéaire de l'Attique. L'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le pays. 102 personnes avaient péri. Une tragédie restée gravée dans la mémoire collective grecque. À l'époque, la lenteur des autorités à réagir avait été largement critiquée.
Merci Jean-Jacques Herry. À Hong Kong, c'est un calme précaire qui règne pour le moment dans la ville alors qu'il est 18h30 et alors que des blindés militaires de l'armée populaire chinoise ont pris position notamment autour de la ville de Shenzhen et à la frontière. Mais les manifestations ont duré une bonne partie de la nuit avant une intervention plutôt musclée de la police. Les médias chinois montent maintenant au front. Ils accusent les manifestants tout simplement. Sébastien Lebelzig, vous qui êtes sur place pour Europe 1, ils les accusent, ces médias, les manifestants, d'être tout simplement des terroristes.
La presse chinoise se déchaîne aujourd'hui contre les manifestants de Hong Kong. Des vidéos circulent montrant des passagers chinois bousculés et empêchés hier de prendre leur avion au départ de Hong Kong. D'autres images montrent un journaliste chinois agressé par les manifestants, accusé d'être un espion. Le porte-voix du Parti communiste chinois, le Global Times, parle d'attaques terroristes et publie des images de centaines de blindés chinois basés à la frontière avec Hong Kong et prêts à intervenir. Alors ces bruits de bottes interviennent au lendemain d'une journée chaotique au cours de laquelle l'aéroport a été fermé et plus de 400 vols annulés avec des passagers inquiets et excédés.
Je veux juste rentrer chez moi. Ça fait vraiment peur de voir tous ces manifestants nous entourer ici. Ça a commencé quand je suis arrivée et ça continue, mais là, je veux vraiment partir.
Je pense que c'est vraiment égoïste de leur part. On a une famille, des études, un travail. Parce qu'ils manifestent, on ne peut pas rentrer chez nous. On est bloqués depuis 2 jours. Eux, ils peuvent rentrer chez eux et prendre une douche.
Aujourd'hui, les vols ont repris peu à peu, mais les manifestants sont toujours là, à l'aéroport. Ils promettent de nouvelles actions coup de poing avant un week-end qui s'annonce marqué par plusieurs grandes manifestations. À Hong Kong, Sébastien Lebelzig pour Europe 1.
Il y a un an, François, en Italie, à Gênes, un pont s'effondrait, le pont Morandi.
43 victimes, l'Italie n'a pas oublié, l'Italie rend hommage.
Il est 12h39, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, François Clos.
14 août 2018, personne n'a oublié en quelques secondes, voilà le pont Morandi qui s'effondre, entraînant dans sa chute à Gênes, véhicules et passagers, 43 personnes au total vont perdre la vie. Depuis une heure maintenant, présidée par le président italien lui-même, cérémonie d'hommage. Toute l'Italie, en cette veille de 15 août, qui est un jour toujours sacré dans la péninsule, eh bien, un an après, cette tragédie est là dans tous les esprits. Gian Bergawi.
C'est aujourd'hui un chantier au cœur de la ville. Fin juin, les derniers piliers du pont Morandi ont été détruits à l'explosif. Le béton et l'acier déblayés pour laisser place au projet de reconstruction. Mais le nouvel édifice dessiné par l'architecte Renzo Piano ne devrait pas être achevé avant 2020 au minimum. Un nouveau pont qui n'effacera pas le drame, explique Paolo Levi, correspondant en France de l'agence italienne ANSA.
Gênes se relève, mais ça a été vraiment le symbole et la métaphore d'un pays qui s'écroulait sur lui-même. Et l'espoir est que les responsables soient traduits en justice, même si c'est des responsabilités assez diluées. C'est-à-dire que ça peut relever de la Société des autoroutes, mais même du ministère des Transports. Mais c'est vraiment très, très complexe. C'est une blessure qui restera à jamais dans l'imaginaire et dans la conscience collective de l'Italie.
Sous le pont, il y avait un quartier, aujourd'hui inhabité. 600 logements sont toujours vides. La ville devrait lancer un concours international pour reconstruire cette zone. Et puis, ce viaduc autoroutier était un axe de communication majeur. Gênes est le premier port de containers transalpins. Depuis un an, Gênes étouffe donc dans des embouteillages monstrueux.
Et une minute de silence a bien sûr été observée tout à l'heure à 11h36, très précise, à Gênes. Et au moment où nous parlons, des messes sont évidemment célébrées dans tout le pays en hommage aux 43 victimes. En France, on peut très clairement parler maintenant d'une vraie tendance. C'est le sixième trimestre consécutif de baisse du chômage en France. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour François.
Du service économie d'Europe 1, une baisse de 0,2 points au deuxième trimestre avec un taux de chômage global à 8,5% de la population active. La France, Olivier, revient en fait exactement à la situation où elle était il y a 10 ans.
Oui, 2009-2019, retour au même taux de chômage, sachant qu'entre ces deux dates, la courbe s'est envolée, atteignant un sommet. C'était à la mi-2015, au moment donc du quinquennat de François Hollande. À l'époque, le taux de chômage avait culminé à 10,5% de la population active. 8,5% aujourd'hui, c'est donc positif, même si la France fait encore partie des pays à la traîne en Europe. Quand on regarde dans le détail, toutes les tranches d'âge bénéficient de l'amélioration constatée par l'INSEE au deuxième trimestre, mais c'est le taux de chômage des jeunes qui recule le plus, moins 0,6 points entre avril et juin, sachant que sur un an, la baisse est encore plus nette, moins 1,5 point. Autre signe encourageant, le chômage de longue durée, lui aussi se replie, moins 0,4 points en une année.
Alors Olivier, même si elle est en vacances, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a bien sûr immédiatement salué ces bons chiffres.
Oui, sur Twitter ce matin, elle attribue ce reflux du chômage aux réformes engagées depuis 2 ans, réforme du Code du Travail, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Aujourd'hui, dit-elle, les entreprises n'ont plus peur d'embaucher. Pour l'avenir, le gouvernement mise aussi sur la réforme de l'assurance chômage qui va entrer en vigueur très prochainement, avec, on le sait, un durcissement des conditions d'inscription des chômeurs qui, dit le gouvernement, aura pour effet d'inciter les chômeurs à reprendre plus rapidement du travail. Alors les réformes ont leur part probablement, mais la conjoncture y est aussi pour quelque chose. Au deuxième trimestre, le PIB de la France a progressé de 0,2%. Alors c'est pas énorme certes, mais ça a quand même permis la création nette de 62 000 emplois.
Merci Olivier Samin. C'est un tout petit amendement passé très discrètement au cœur de l'été, mais qui change bien des choses. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour François, bonjour à tous.
Oui, une réforme qui est passée quasiment inaperçue, celle du droit de grève des agents territoriaux, c'est-à-dire, Maud, les fonctionnaires qui travaillent dans les crèches, qui assurent la collecte des déchets, ceux qui travaillent à domicile également auprès des personnes âgées. Eh bien, ce petit amendement glissé par les sénateurs dans la loi qui a été promulguée la semaine dernière visant à transformer la fonction publique en France, il change aux yeux des syndicats bien des choses, et on parle même d'un droit de grève écorné.
Eh bien oui, hein, désormais en cas de grève dans une crèche, une cantine ou dans une école pendant les temps d'activité périscolaire, les fonctionnaires des collectivités locales devront déposer un préavis de 48 heures. Jusqu'à présent, il n'y avait que le personnel enseignant qui était concerné. Une nouvelle règle qui va même au-delà du milieu scolaire, puisque d'autres services publics locaux comme la collecte et le traitement des déchets ou encore l'aide aux personnes âgées sont concernés. Pour Didier Dumont de la Fédération CGT des services publics, eh bien, cette nouvelle loi va casser tout mouvement de grève.
Ça va remettre en cause le droit de grève puisqu'il y a beaucoup de personnels qui attendent le dernier moment pour se déclarer déjà grévistes. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas déclarés grévistes 48 heures avant, ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus faire grève au dernier moment. C'est vraiment une atteinte au droit fondamental des fonctionnaires.
Alors, en cas de grève, les collectivités locales pourront instaurer un service minimum garanti. Les élus pourront l'imposer de manière unilatérale si les négociations avec les syndicats n'ont pas abouti après 12 mois de discussion. Et puis, autre changement introduit dans la loi, la retenue sur salaire en cas de grève ne sera plus décomptée en nombre d'heures non travaillées, mais dès la première heure de grève, eh bien, c'est le salaire de la journée entière qui pourrait être retenu.
Et on comprend que du côté des syndicats, comme on vient de l'entendre, ça passe difficilement, même si on est presque le 15 août.
Midi 44, Europe 1. La suite du journal, François Claus.
L'Opéra de Los Angeles a donc confirmé hier soir qu'une enquête serait ouverte sur le cas Placido Domingo. L'icône dans le monde de l'opéra est bel et bien confrontée, après les révélations d'Associated Press hier, à 9 témoignages, 9 jeunes femmes, l'accusant toutes, Benoît Clerc, de comportements liés à une forme de harcèlement sexuel.
Les faits reprochés se seraient déroulés sur 3 décennies et concernent au total près d'une 60aine de jeunes femmes, artistes lyriques ou danseuses. Elles ont indiqué avoir assisté à des comportements déplacés, évoquent des mains baladeuses et autres appels téléphoniques nocturnes pressants de Placingo Domingo. 7 d'entre elles disent explicitement que leur carrière en a pris un coup après avoir refusé les avances de la star du lyrique et qu'elles n'ont plus jamais retravaillé avec lui. L'opéra de Los Angeles, que le chanteur a contribué à fonder et qu'il dirige depuis 2003, a décidé d'ouvrir une enquête interne dont les résultats devraient être connus rapidement, mais déjà le Philharmonique de Philadelphie et l'Opéra de San Francisco ont annulé les prochains concerts prévus avec lui. Le Met de New York, en revanche, a lui décidé d'attendre les conclusions de l'enquête. Domingo devait y interpréter Macbeth de Verdi en septembre prochain. James Levine, le directeur musical du Metropolitan, avait été licencié pour les mêmes raisons en mars 2018, après 40 ans de carrière.
À suivre dans quelques instants, la météo bien sûr, mais surtout à 13h, on va retrouver Raphaël Duchemin comme tous les jours pour le meilleur de la France bouge. Et aujourd'hui, François, un gros plan sur les alternatives aux pesticides. Des Français ont réfléchi à des solutions naturelles.
Vous n'avez pas oublié une page du journal, la Marlette ? Si, pardon, elle a oublié une page du journal. Mais on va parler football, on va aller se promener dans l'Ardèche et on va lire un livre, Marlène. Et, après, il y aura Raphaël Duchemin. À tout de suite.
Midi 47, la suite du journal, c'est avec vous François Clos.
Et oui, c'est bien la suite. Vous êtes bientôt en vacances Marlène, c'est pour ça. Et on vous pardonne bien
Merci.
Évidemment. Football, il y aura bien une Française ce soir en finale de Coupe d'Europe. Oui, le match de Super Coupe d'Europe. Vous savez, celui qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions, en l'occurrence Liverpool cette année, au vainqueur de la Ligue Europa, en l'occurrence Chelsea. Eh bien, cette Super Coupe d'Europe qui se déroule en Turquie va être arbitrée par notre star de l'arbitrage féminin, j'ai nommé Stéphanie Frappard. Et c'est le moment ou jamais de dresser son portrait avec notre ami Julien Froment.
Ce soir, à Istanbul, toute l'Europe du football aura les yeux rivés sur Stéphanie Frappard. Mais la Française de 35 ans en a désormais l'habitude. Quand l'UEFA a annoncé le 2 août dernier sa nomination pour arbitrer la Super Coupe d'Europe, son visage s'affichait déjà sur toutes les unes de la presse sportive mondiale. Stéphanie Frappard, une pionnière, première femme à officier en Ligue 2 puis en Ligue 1, sait qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur.
Le plus dur commence. C'est très bien que je suis attendue et voilà, de faire ma place comme je l'ai faite en Ligue 2, je sais très bien que c'est pas facile. Pour l'instant, voilà, moi je suis vraiment un peu terre à terre, donc on va prendre cette saison la première et après on verra par la suite.
Cette fois-ci, la native d'Herblay dans le Val d'Oise sera confrontée à la crème de la crème anglaise, Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, et Chelsea qui a remporté la Ligue Europa. Un cadeau empoisonné pour certains, la Française a plus à perdre qu'à gagner, même si ses prestations à la Coupe du Monde féminine ont été unanimement saluées. Stéphanie Frappard aura donc 90 minutes et plus si affinité pour démontrer que sa présence va au-delà du simple coup de pub organisé par l'UEFA avant de retrouver les terrains de Ligue 1 puisqu'elle fait partie des 23 arbitres retenus cette saison.
Les sorties cinéma du mercredi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
On va commencer Mathieu par une déclaration d'amour au cinéma avec le nouveau Quentin Tarantino, son 9e film Once Upon a Time in Hollywood. Alors ça vaut quoi ce 9e Tarantino Mathieu ?
Bah, c'est un bel hommage au cinéma mondial qui a nourri le jeune Tarantino quand il bossait dans un vidéoclub. Donc on y parle de série Z, de western spaghetti, de Bruce Lee. Le réalisateur a choisi de situer l'intrigue en 1969 en suivant le quotidien d'une star sur le déclin, c'est Leonardo DiCaprio, et de sa doublure, chauffeur, nounou même, incarné par Brad Pitt. Ensuite, en toile de fond, Tarantino revient sur le massacre de Sharon Tate, perpétré par les adeptes de la secte de Charles Manson. Donc c'est un film qui est bourré de nostalgie. Il faut bien le dire, on prend un vrai plaisir à voir DiCaprio et Brad Pitt complices, se donner la réplique. Ce sont quand même deux des plus grands acteurs au monde. Donc si vous aimez le cinéma de Tarantino, vous allez adorer ce film. Je précise quand même qu'il dure près de 2h40, donc il faut avoir un peu de temps devant soi.
Alors si on a un peu moins de temps, Mathieu, film intéressant, avec un titre un peu étrange, « Je promets d'être sage ».
L'histoire d'un homme qui veut être normal, mais la normalité dans tout ce qu'elle peut avoir de plus ennuyante, vous voyez. Cet homme, il est joué par Pio Marmaille. Alors au début du film, on le retrouve en metteur en scène de théâtre d'auteur, survolté, stressé. Il galère depuis 15 ans, il y a laissé sa famille, son couple. Bref, il en a marre et il décide donc de trouver le poste le plus tranquille qui soit, gardien de salle dans un musée. Vous savez, ce qui consiste à rester toute la journée assis sur une chaise, à surveiller que les visiteurs ne s'approchent pas trop d'une œuvre. Sauf que parmi ses collègues, tous plus austères les uns que les autres, il va faire la connaissance de Sibylle, quarantenaire caractérielle, jouée par la formidable Léa Drucker, qui va alors entraîner notre Pio Marmaille dans une escroquerie. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est un petit film sans prétention, mais franchement, vous passez un bon moment de cinéma. Donc pour l'été, c'est parfait. Ça s'appelle « Je promets d'être sage ». Je mets 3 étoiles sur 5 et même note pour le Tarantino.
Et puis, on surveillera également cette belle comédie qui est sortie, « Les Perdrix », qui, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, avait suscité beaucoup de réactions très positive. L'heure des tribulations ardéchoises de notre reporter Justin Morin, ou comment une utopie peut devenir réalité. Oui, l'histoire d'un village sauvé de l'abandon par une poignée d'irréductibles rêveurs portés par l'idéologie des 70s.
Pas de voiture, ici on y accède par un long chemin rocailleux. Au village, quelques maisons en pierre traditionnelle, une chèvrerie et l'atelier des tailleurs de pierre mené par Vladimir.
On taille des galets avec, on leur fait une face plate pour pouvoir les empiler comme il faut dans les murs. On a fait quelque chose de notre matinée et c'est hyper valorisant d'apprendre, de voir des gens qui apprennent et qui réussissent et qui sont contents. Voilà, je préfère ça que de dormir.
Donc là on longe le potager en terrasse. On continue la visite du hameau. On entend des poules, voilà. Un cochon.
C'est quand même grâce à eux qu'on se débarrasse d'une grosse partie de nos déchets. Et après, c'est des bons pâtés qu'on vend à la boutique.
Jeanne fait elle aussi partie du chantier. Elle me montre un peu plus haut le mur de soutien en train d'être construit à partir des pierres taillées. Un mur qui s'était affaissé à cause du troupeau de chèvres. Et puis elle m'emmène dans un lieu très important pour les 70 bénévoles présents.
Hop, c'est par là. Salut la cuisine.
Bonjour.
Bonjour. Et qu'est-ce que vous préparez, Julie?
Un couscous douceur.
Un couscous douceur.
Sans nous, tout le monde mourrait de faim, ça serait une vraie catastrophe.
Comment vous vous appelez ?
Gauvin.
Gauvin. Et pourquoi vous venez ici, vous ?
Moi, peut-être pour faire aussi un peu une pause dans sa vie. Quand je suis en ville, je suis toujours sur mon portable, à parler avec les gens, mais sans vraiment les voir. Et ici, j'ai pas touché mon portable pendant 5 jours, ce qui ne m'arrive vraiment jamais. Ça fait une semaine que je suis là et vraiment, j'ai un gros coup de cœur.
Bon, ben, je vous laisse travailler tranquillement.
Du coup, on quitte le hameau ?
Oui, on est juste à côté de la rivière l'Ardèche. On va s'arrêter 2 petites secondes ici. C'est quoi la vision à terme ? Il y a un objectif ici, au Vielodon, ou pas ?
En fait, notre objectif, c'est pas de terminer le hameau. Notre objectif, c'est que ça continue d'exister. Parce que je pense que c'est l'expérience de ma vie qui m'a fait le plus travailler ma confiance en moi. Et je pense que c'est un truc pour pas mal de personnes qui passent ici. Tu fais un produit fini avec tes capacités à toi, et quand t'arrives pas, il y a des gens qui t'ont aidé sans t'enfoncer, qui t'ont soutenu. Enfin, je sais pas, ça n'existe pas partout.
Toute l'année, le Vielodon accueille aussi des classes vertes pour partager ses valeurs d'entraide et de vie en communauté.
Merci Justin Morin, on suivra avec vous demain la 5e et dernière étape. Non, la 4e demain, je vais trop vite, comme vous Marlène. Demain oui. C'est jeudi 15 août, mais c'est jeudi. Donc la 4e et avant-dernière étape de son périple dans l'Ardèche et dans la Drôme. C'est l'heure de notre conseil lecture du jour. On va aller encore plus loin là, on va aller à la frontière américano-mexicaine. Conseil bien trouvé au cœur de la librairie Mola par notre correspondant Stéphane Place. C'est un livre qui nous renvoie au Mexique et aux États-Unis. Ça s'appelle Matador Yankee, publié aux éditions Le Passage. Un livre à lire.
De longs séjours répétés en Californie et un intérêt poussé pour la frontière américano-mexicaine. Quoi de plus normal pour un géographe qui s'interroge aussi depuis longtemps sur la relation entre le rodéo et la tauromachie. Vous secouez le tout et obtenez les ingrédients du premier roman de Jean-Baptiste Maudet. L'universitaire palois met en scène un dénommé Harper à la tignasse blonde, au point d'imaginer que Robert Redford est peut-être son père. Pour une dette de jeu, Harper s'en va torer et assurer le spectacle dans un village de cinglés dans les montagnes de la Sierra Madre. Libraire chez Mola, Sylvain Arestier vous recommande cette lecture.
Lui, ce qui l'a particulièrement intéressé dans cette thématique-là, c'est ce qu'il appelle en fait le renversement de la frontière, c'est-à-dire que la Californie, et l'Arizona et le Texas, c'est pas les États-Unis, mais c'est plutôt le Mexique, et ce sont des régions qui ont une culture plutôt espagnole. Ça, c'est le point de départ en fait de son travail d'écrivain. Il s'inspire en tout cas de toutes ses connaissances, en fait, de sa maîtrise vraiment à la fois de cette région-là, de cette culture-là des Jotorins, pour en faire un excellent roman. Si on aime les westerns, si on aime les romans noirs ou les films noirs, si on aime la poussière et la sueur, Matador Yankee est vraiment fait pour vous.
Et ce n'est pas un travail académique, mais bien un roman avec des ambiances de western, des couleurs, toute une ambiance dans laquelle surgissent des personnages que l'on pourrait retrouver dans le cinéma de Tarantino, à commencer par ce John Harper, imaginé par Jean-Baptiste Maudet.
Ce qui a été pour moi intéressant dans l'écriture, c'est de trouver un héros qui soit capable de porter cette complexité de la frontière, cette complexité historique. Donc ce John Harper, qui est parfois appelé Juan Harper, il a une mère mexicaine, il il est peut-être le fils de Robert Redford, il n'en est pas sûr. Et la corrida et de l'autre côté le rodéo, ce sont deux formes spectaculaires de jeu qui réunissent à la fois des hommes, des chevaux et des bovins. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est deux formes qui sont totalement séparées. Donc c'est pas un petit paradoxe de voir que l'un des symboles de l'Amérique, le cow-boy américain, qui guide le bétail, qui pratique le rodéo, et le rodéo est sans doute un des spectacles les plus associés à l'identité américaine dans l'imaginaire collectif, est une origine hispanique.
Les phrases claquent, les répliques fusent dans des confrontations savoureuses. Matador Yankee est un road trip très réussi.
Et à lire donc avant un nouveau conseil de lecture de la librairie Mola avec Stéphane Place demain.
À suivre. François, les prévisions météo, les rappels des grands titres de l'info et le meilleur de la France bouge de 13h à 14h avec Raphaël Duchemin. Comme je le disais tout à l'heure, on va s'intéresser aux alternatives aux pesticides. Europe 1, Leclerc.
Papa, je me prends un pack pilote.
Attends, fais voir.
C'est un stylo roller friction ball avec un feutre d'écriture et des recharges. En cours, pour écrire et effacer, c'est juste indispensable.
Ah, ça écrit et ça efface, c'est bien ça.
En plus, t'as 20% de réduc.
Ah, ça c'est bien aussi.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 6 août au 7 septembre, le pack pilote comprenant un stylo roller friction ball, 3 recharges et un feutre d'écriture avec 20% de réduction immédiate est à 3,48€. Voir modalités magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Roller friction ball, je valide.
Cool.
Europe 1, il est midi 57. Un projet de cuisine, c'est avant tout une histoire de style. Pour trouver le vôtre, pas de panique, minimaliste, scandinave, industriel ou naturel, toutes les tendances sont chez Ixina. Pour trouver l'inspiration, rendez-vous dans l'un des 150 magasins Ixina ou sur le site ixina.fr. Ixina est le meilleur chaîne de magasins de l'année. Quand Ixina, tout va.
Alors Valérie Darmon, c'est une vraie bataille qui se joue actuellement dans le ciel de France. Racontez-nous.
Eh bien, entre les nuages qui sont présents dans le nord-ouest, hein, dont je parle depuis quelques jours, et le beau temps ailleurs, eh bien, qui va gagner? Eh bien, les nuages.
Les nuages, même pas match nul.
Malheureusement, on aurait aimé. Demain, c'est le retour des nuages. Je l'avais annoncé d'ailleurs mardi, mercredi, plus belle journée de la semaine.
Vous ne trompez jamais.
Oui, enfin, ça dépend des fois. C'est pas une science exacte non plus. Mais là, pour le coup, malheureusement, bah voilà. Donc déjà, demain matin, du sud-ouest au massif central et sur l'est de la France, la matinée se déroule sous un ciel très nuageux à couvert, avec quelques pluies enfin sur les Vosges. Et dans l'après-midi, de timides éclaircies vont apparaître au nord de la Seine, mais aussi quelques ondées plus au sud, ainsi que sur les régions atlantiques. Le ciel est plus variable entre passages nuageux donc et quelques belles éclaircies.
Alors côté température, j'espère que ça repart un petit peu à la hausse.
C'est stationnaire. Aujourd'hui, ça repart à la hausse, on gagne quelques degrés. Et demain, elle reste à peu près dans les mêmes valeurs. Les minimales entre 13 et 18 degrés du nord au sud, autour de 20 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 20 et 25 sur la moitié nord, 23 à 27 sur le sud-ouest, Auvergne et Rhône-Alpes, et 29 à 34 toujours sur le sud-est et la Corse. Demain après-midi, nous aurons 24 degrés justement à Paris, 25 à Angers, 26 à Angoulême et Montauban, 28 à Lyon, 30 à Perpignan, 31 à Manosque. Et 33 à Avignon.
Merci Valérie Darmon.